Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Aucun crime ou péché n'efface l'homme du cœur de Dieu. C'est ce qu'a affirmé le pape François lors de la prière de l'Angélus. Il commentait l'évangile de ce dimanche, la conversion de Zachée, éclairage dès le début de ce magazine. Nous reviendrons ensuite sur la rencontre voulue par le pape François qui s'est tenue ce week-end au Vatican. Deux jours de travaux pour trouver des lignes d'orientation afin de lutter contre la traite des êtres humains. Et puis comme chaque dimanche, rendez-vous avec sœur Catherine Aubin et son invité. Bienvenue dans ce magazine. Jésus est miséricordieux et ne se lasse jamais de pardonner. Le pape l'a rappelé lors de la prière de l'Angélus devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Le Saint-Père s'est attardé sur l'évangile de ce dimanche selon Saint-Luc qui relate la conversion du collecteur d'impôts Zachée après sa rencontre avec Jésus. Antonino Gallofaro.
Aucune profession ou condition sociale, aucun péché ou crime ne peut effacer de la mémoire et du cœur de Dieu l'un de ses enfants. En expliquant aux fidèles le sens de la rencontre de Jésus avec Zachée, le pape François met en lumière le dessein de Dieu, Dieu qui se rappelle toujours, qui n'oublie personne parmi ceux qu'il a créés. Il est le Père dont l'attente vigilante et affectueuse de voir renaître dans les cœurs le désir d'un retour à la maison. Et dès qu'il reconnaît ce désir, précise le Saint-Père, avec son pardon, il rend le chemin plus léger vers la conversion.
Et Jésus va dans la casa de Zaccheo.
Malgré la réputation de Zachée, malgré les critiques de tout Jéricho, Jésus se rend chez le collecteur d'impôts qui cherchait à le voir et par cette visite, il introduit le salut, la joie et la paix dans sa maison. Tout comme cet homme qui était méprisé de tous, le pape appelle les fidèles à grimper en haut de l'arbre avec l'envie d'être pardonné, d'accueillir avec joie la voix de Jésus. Lui peut nous changer, il peut transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, il peut nous libérer de l'égoïsme et faire de notre vie un don d'amour. Le Saint-Père, en improvisant dans un ton très direct, invite à la confiance, à l'abandon. Si tu as un poids sur la conscience, si tu as honte de tant de choses que tu as commises, arrête-toi un instant, n'aie pas peur, pense que quelqu'un t'attend. Je t'assure, insiste le pape, tu ne seras pas déçu. Jésus est miséricordieux et il ne se fatigue jamais de pardonner.
Jésus est miséricordieux et mai si stanca di perdonare.
Les prochaines journées mondiales de la jeunesse de Cracovie en Pologne se tiendront du 25 juillet au 1er août 2016. L'annonce a été faite par le cardinal Stanislav Dziwicz, l'archevêque de Cracovie. C'est ce que rapporte l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, qui fait référence à un communiqué du Catholic Pilgrim Office. Le lieu des JMJ, Cracovie, avait été annoncé le 28 juillet dernier par le pape François au terme de la messe conclusive des journées mondiales de la jeunesse de Rio, mais aucune date précise n'avait été avancé. La réunion de travail sur la traite des êtres humains et l'esclavage moderne qui se tenait au Vatican a refermé ses portes ce dimanche après deux jours de travaux. Le pape a rencontré les participants ce samedi pour une photo de groupe. La rencontre, sous l'égide de l'Académie pontificale des sciences et l'Académie pontificale des sciences sociales, a réuni des experts et responsables d'institutions et d'organisations venus de nombreux pays, médecins, sociologues, biologistes, académiciens ou encore spécialistes de la création. criminologie. Parmi les intervenants, Pierre Morel, directeur de l'Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège. Il a rappelé la nécessité d'apporter une réponse politique face à la criminalité internationale, composante de la mondialisation.
C'est une forme de criminalité qui progresse et qui profite de la mondialisation, et il faut des règles nationales. Alors en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles existent et qu'il y a maintenant un jeu de conventions. C'est pas si ancien, hein. Ça s'est développé au cours des dernières années. Et maintenant, on peut dire que pour l'essentiel, c'est là. Sur la traite des personnes, on parle beaucoup de la convention de Palerme, qui aborde les différentes dimensions de la criminalité internationale avec des protocoles concernant le trafic des armes, le trafic de drogue et le trafic des personnes. Enfin, le trafic des personnes, cela finit par concerner, ça dépend des estimations, environ 30 millions de personnes dans le monde. Travail forcé, quasi-esclavage, prostitution, etc. Ce sont des ensembles considérables. Donc, le travail à faire à partir des conventions, c'est de mettre en place une meilleure coordination, d'inciter les États à mieux coordonner leurs actions, à mieux mettre en œuvre les conventions. Parce que quelquefois, on signe et puis on ratifie pas, ou on signe, on ratifie, mais la conversion dans la législation interne ne suit pas ou suit mal. Donc il y a un vrai travail à faire en liaison avec les différentes organisations internationales, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies contre la drogue et la criminalité font partie de ces instances avec lesquelles il faut essayer de travailler de façon plus méthodique.
Un des points importants qui a été souligné durant cette rencontre, c'est une certaine schizophrénie de nombreux États qui œuvrent en faveur de la promotion de la dignité humaine et qui, en même temps, ou ne font rien pour lutter contre la traite des êtres humains, ou même parfois l'encouragent.
Oui, alors, par exemple, certains cas, eh bien, tout ce qui leur relève de la prostitution fait l'objet d'un traitement pénal méthodique, mais par ailleurs, pour ce qui est du travail forcé, là, finalement, il y a très peu de procédures qui mettent en cause cette activité. Il y a un décalage par rapport au nombre. Cela fait partie de ce que peuvent signaler, documenter, exposer des associations, des mouvements, des organisations régionales, des acteurs sociaux, des communautés religieuses qui sont au contact direct, qui voient ces décalages. Et c'est là que ce forum où vous avez à peu près une soixantaine d'observateurs qui sont venus avec beaucoup d'engagement, des exemples précis, des documents, apporte à ce travail qui est au départ un travail de réflexion et d'étude, parce qu'il faut rassembler les experts dans différents registres. Il y a un va-et-vient, je dois dire, impressionnant, vivant et instructif pour tout le monde.
Quelle peut être la contribution de l'Église, des leaders religieux dans la lutte contre la traite des êtres humains?
C'est tout simplement de mettre en avant ce que trop souvent on a envie de mettre de côté et quelquefois le plus loin possible, parce que très souvent, une situation où les gens débouchent sur l'impuissance, sur le fatalisme, bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont très forts, ou alors c'est l'affaire du gouvernement. Non. On le voit bien, mais vous savez, il y a beaucoup de responsables d'organisations religieuses qui sont là et qui, justement, parlent de leur travail de terrain et de leur expérience la plus directe. Donc, la prise en charge, la restauration de la dignité de chacun, la compréhension du fait que c'est souvent de longues histoires dramatiques qu'il faut reprendre, qu'il n'y a pas de solutions toutes faites, c'est cela aussi qui est exposé. Donc on a une vision très large de ce qu'il est possible de faire et des leçons qu'il faut en tirer.
Pierre Morel, directeur de l'Observatoire Pharos. Les conclusions de cette réunion de travail seront présentées ce lundi à 12h30 en salle de presse du Saint-Siège. À présent, à l'invité de ce dimanche. Il s'agit de Jérôme Ferrari, qui a obtenu le prix Goncourt l'année dernière pour son roman « Le sermon sur la chute de Rome ». Après avoir enseigné la philosophie au lycée d'Alger pendant 4 ans, puis en Corse, son pays natal, Jérôme Ferrari est maintenant à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Interrogé par Catherine Aubin, il revient sur ses sources d'inspiration et nous fait part de son intérêt pour différents auteurs spirituels, dont saint Augustin.
Jérôme Ferrari, vous êtes entre autres professeur de philosophie et vous avez aussi obtenu l'année dernière le prix Goncourt. Parmi les caractéristiques un peu de votre vie, il y a une caractéristique qui peut sauter aux yeux, c'est que vous êtes corse, que vous avez vécu longtemps en Corse, et vous avez dit même une fois que la Corse est pour vous un réservoir extraordinaire. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la Corse pour vous dans votre travail d'écriture? Qu'est-ce que ça représente?
Ça représente, je pense, l'élément essentiel de mon inspiration. Je crois que c'est certainement dû au fait que j'ai effectivement passé le plus clair de ma vie d'adulte en Corse. Mais j'ai grandi en banlieue parisienne. On retournait dans le village de ma grand-mère à toutes les vacances, vraiment toutes, intégralement. Et du coup, j'avais à la fois un rapport de familiarité avec ce village et puis aussi un certain rapport d'étrangeté qui m'a permis de regarder les choses se passer avec un certain recul et de ne pas les recevoir comme si elles allaient complètement de soi. En quelque sorte, c'était un endroit qui m'était à la fois excessivement familier et quand même un peu exotique.
Et en même temps, quand vous dites réservoir extraordinaire, on entend que c'est quelque chose dans lequel vous puisez volontiers.
Totalement.
Votre prix Goncourt se passe en Corse.
Se passe en Corse, c'est l'essentiel de mes livres, enfin tous mes livres ont un rapport direct avec la Corse. Il y a deux sources principales d'inspiration. D'abord une qui est liée à l'histoire de ma famille, mais qui n'est pas l'histoire particulière de ma famille à moi, qui relève vraiment de réalités sociologiques plus grandes, notamment de cette excessive pauvreté de l'après-guerre de 14, qui fait que l'ensemble des garçons d'une famille partaient outre-mer ou dans la fonction publique coloniale ou dans l'armée, ce qui est le cas de ma famille. Et moi, c'est le parcours de ces gens qui sont nés dans des villages, dans des mondes minuscules où on faisait parfois pas 10 km en 10 ans et qui se retrouvaient projetés subitement en Indochine, ce qui est le cas de mon grand-père par exemple, m'a toujours réellement fasciné. Et puis l'autre source d'inspiration, elle est sans doute plus contemporaine, et c'est le type de société très difficile à mon sens qui résulte du tourisme. Et qui fait qu'on a une espèce de vie schizophrénique avec un désert interminable l'hiver et puis une frénésie incontrôlable en été, qui sont certes pénibles à vivre, mais qui donnent l'occasion de tensions et de rencontres qui sont peut-être pas aussi facilement concevables ailleurs. Et c'est vraiment les deux pôles de mon inspiration vis-à-vis de la Corse.
Vous dites aussi que c'est pas seulement les voyages qui sont intéressants, mais c'est le fait d'être ailleurs et d'y rester. Depuis quelques années, vous voyagez pas mal. Vous avez eu un poste à Alger.
Oui.
Et maintenant, vous êtes dans les Émirats arabes. Ça donne lieu à des rencontres et à des moments qui sont féconds pour vous dans votre littérature ?
Alors je suis aux Émirats depuis, c'est ma deuxième année, le début de ma deuxième année, donc je ne peux pas encore en dire grand-chose, mais par contre, mon expérience de 4 ans en Algérie a été essentielle à un point que je ne peux même pas bien circonscrire ou comprendre. Ça a changé ma manière de voir la réalité du monde, ça a changé ma manière d'écrire, ça a élargi ma perspective de manière vraiment incroyable, et je porte l'Algérie dans mon cœur presque autant que la Corse. Maintenant, tout en sachant que ce n'est pas mon pays. Je suis arrivé à Alger en 2003, moi, le lycée français rouvrait. Ils avaient tous fermé en 94 pendant les années de terrorisme et j'avais pour élèves des jeunes gens qui avaient donc passé l'essentiel de leur enfance pendant ces années terribles. Et c'était très émouvant et un peu troublant de ma part de rencontrer des garçons et des filles si jeunes de 16-17 ans qui avaient vu des choses que moi, à 35 ans, je n'avais même pas pu imaginer. J'en ai été ému et marqué, comme je vous l'ai dit, à un point que je peux même pas évaluer. Et les attaches avec ce pays ont été immédiates. Et puis après, le hasard fait que j'y reviens, parce que moi, quand j'ai écrit mon dernier roman, Le sermon sur la chute de Rome, c'était saint Augustin qui m'intéressait. Et je n'y peux rien s'il était évêque d'Hippone, et que Hippone se trouve, par le plus grand des hasards, être le site d'Annaba en Algérie. C'est bien que j'ai l'impression que tout m'y ramène sans cesse.
Alors, vous parlez de Saint-Augustin, justement, dans votre roman Le Sermon sur la chute de Rome, Saint-Augustin fait partie des grands fils rouges de ce roman. Pourquoi Saint-Augustin ?
Alors, ça a été la rencontre assez fortuite avec un tout petit extrait d'un des cinq sermons. Et c'était un passage qui disait « Le monde est comme un homme, il naît, il grandit et il meurt ». Alors, je suppose que si la phrase m'a immédiatement arrêté, c'est parce qu'elle rencontre des obsessions qui sont les miennes depuis longtemps sur le caractère éphémère des choses. Et donc, je suis immédiatement allé lire l'ensemble des sermons, qui sont des textes magnifiques. Mais ce sont des textes à la fois, me semble-t-il, pleins de compassion et quand même assez durs, puisqu'on a vraiment l'impression que Augustin il secoue ses fidèles en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que les choses bâties par les hommes ne sont pas faites, sont faites pour être éternelles ?» Je l'ai compris d'une manière très simple, entre ce qui est grand et ce qui est petit, pour peu que ce soit terrestre, il n'y a aucune différence de nature et tout finit, tout ce qui naît finit par périr. C'est une chose qui est une évidence et que vous devriez savoir et qui, en tant que chrétien, ne devrait pas vous affliger. Et du coup, j'ai construit entièrement mon roman comme une sorte de variation sur le thème de la croissance et de la chute, que j'ai mené, je dirais, pour prendre un terme photographique, à plusieurs focales, avec des mondes vastes, comme mettons l'Empire colonial français, et puis avec un tout petit monde, qui est celui d'un bar de village en Corse, qui lui aussi a son émergence et ses invasions barbares.
Est-ce qu'on peut dire que dans les questions métaphysiques que vous vous posez, à travers vos romans, il y a celle de l'éphémère et celle de l'éternité ?
Tous mes romans, sans aucune exception, ont ce fond métaphysique et des aspects qui sont, même à mon sens, franchement mystiques. En Algérie, j'avais découvert la poésie soufie arabe, et notamment à l'âge, avec un étonnement effaré de voir des textes si beaux, si profonds, et qui étaient si vieux, alors que même dans la traduction, on aurait dit de la poésie contemporaine. Je ne suis pas un écrivain très psychologisant. J'ai toujours préféré essayer de comprendre le monde à l'aide de catégories qui n'étaient pas des catégories psychologiques. Donc les références religieuses et mystiques de mes romans me servent, moi, à comprendre les choses d'une manière absolument non psychologique.
Alors, vous parlez de références mystiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de vos références mystiques ?
Je peux peut-être donner un exemple qui concerne un roman que j'ai écrit en 2010 et qui est sur la torture pendant la guerre d'Algérie, qui s'appelle « Où j'ai laissé mon âme » et qui s'appuyait sur des faits historiques qui prenaient comme point de départ le fait historique de la capture et de l'assassinat déguisé en suicide de l'Arabie Ben Midi en 1957. Mais moi, je n'avais pas du tout l'ambition de faire un roman historique. Les livres d'histoire suffisent et je n'ai pu rentrer dans le roman qu'en transformant le face-à-face entre l'officier français qui arrête Ben Midi et son prisonnier en une sorte de nouvelle version du face-à-face entre Pilate et le Christ, et notamment la version qu'en donne Mikhail Bulgakov dans Le Maître et Marguerite. J'ai essayé de comprendre le trajet de ces officiers qui avaient, pour beaucoup d'entre eux, commencé leur carrière dans la résistance et mené une vie entièrement honorable, et saisir le moment du basculement que eux-mêmes ne peuvent pas apercevoir ou comprendre, et qui fait qu'on se rend compte, alors qu'on a l'impression d'avoir suivi une trajectoire rectiligne, qu'on est arrivé exactement à l'opposé du point où on était parti. Vous voyez, pour comprendre ça, la notion de péché me semble plus pertinente que celle de traumatisme infantile.
Qu'est-ce que le péché pour un agnostique ?
Ce qui m'intéresse dans le péché, c'est que c'est quelque chose qui dépasse et pervertit la simple volonté individuelle. Et je crois que certains épisodes douloureux de l'histoire ou certains moments moins spectaculaires de nos vies individuelles se comprennent mieux si on les interprète par la présence d'une certaine tendance à la chute qui n'est, que je le répète, pas psychologique.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, pour conclure, Jérôme Ferrari, que parmi les autres catégories métaphysiques, vous accordez une place aussi à la joie et au pardon ?
Ah, la joie, c'est un concept spinoziste que j'ai toujours adoré. L'autre chose à laquelle j'accorde une énorme importance, non seulement en tant que sentiment, mais quasiment comme une vertu cardinale qui doit être celle du romancier, c'est la compassion. Et le travail le plus important, et peut-être pas le plus facile, c'est d'arriver à se mettre dans une situation d'empathie avec tous ces personnages, même ceux pour lesquels il est le plus difficile d'en avoir.
Merci.
Merci à vous.
C'est la la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos interviews et éclairages sur notre site internet www.radioveticana.va et vous rendre sur notre page Facebook.